France Inter.
Merci d'écouter France Inter, 13h. Le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Le rêve d'un jeune garçon de 11 ans. Ce soir, il va interpréter la Marseillaise en langue des signes avant France-Irlande de rugby. Une première à la télévision. On l'écoute dans un instant. À suivre encore, des refus d'obtempérer en série. Plusieurs policiers blessés ces derniers jours. Le candidat à Paris, Emmanuel Grégoire, qui s'inscrit dans les pas d'Anne Hidalgo. Présentation de son programme ce matin et dans les clés des municipales. Notre rendez-vous chaque semaine. Bonjour Maxence Lambrecq.
Bonjour.
Aujourd'hui, nous parlons du budget de nos communes.
Et oui, est-ce que ce sont des cabinets de conseil privés qui écrivent ce fameux budget ? On savait tout pour celui de l'État jour par jour. On va découvrir celui des communes.
A tout de suite, nous verrons qu'Emmanuel Macron tente de renouer le contact avec Vladimir Poutine. Et puis nous parlerons de ces changements à Radio France. Bonjour Alexandra Akoun.
Bonjour.
Et ça concerne notamment France Inter.
Oui, le départ de la directrice de France Inter, Adèle Vendrette. Elle sera remplacée dès le 2 mars par Céline Pigalle, jusqu'ici directrice du réseau ICI et de l'information de Radio France.
Vous nous détaillerez tout cela dans quelques minutes. À partir de 13h30, la metteuse en scène Ayla Navidi avec nous après une longue tournée en France. Sa pièce a succès 4211 km et rejouée depuis hier soir à Paris. C'est l'histoire d'une famille iranienne exilée en France et cela résonne évidemment avec la situation en Iran. 01 45 24 7000 pour vos questions. 13h50, c'est la France. Non, la cuisine de montagne ne se résume pas au trio raclette, tartiflette, fondue. Ce sera avec Marie-Luce Ribot du journal Sud-Ouest. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson, suite de notre série olympique, avant les Jeux olympiques à Milan dans quelques jours. Nous serons avec l'escrimeur Enzo Lefort, triple médaillé olympique. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Près de 10 millions de personnes le 15 mars dernier devant leur écran pour assister à la victoire dans le tournoi des 6 nations de l'équipe de France de rugby. C'était face à l'Écosse, record d'audience de l'année 2025. Combien seront-ils ce soir ? France-Irlande, premier match du tournoi 2026 au Stade de France. Un jeudi soir pour éviter la concurrence avec les Jeux Olympiques. Et juste avant ce match, les spectateurs et téléspectateurs découvriront, aux côtés d'Antoine Dupont, le capitaine français, un jeune garçon. Il s'appelle Maxence, il a 11 ans. Bonjour Timon Rosturc.
Bonjour Jérôme.
Maxence va chansigner en direct la Marseillaise. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Que ce soir, vous verrez Maxence interpréter la Marseillaise en langue des signes pour les personnes sourdes et malentendantes. Et je vous préviens, Maxence, qui vient pour l'occasion du Loiret avec sa maman, est très excité à l'idée de rentrer sur la pelouse avec Antoine Dupont.
Et c'est waouh.
Et Maxence a envie d'être à la hauteur de ce défi.
Pour moi, ça va être assez dur de le faire parce que j'ai toujours été un peu timide. Mais je vais faire de mon mieux parce que j'aimerais bien dire à d'autres enfants qui me regardent de malentendant que même si on est sourd, on peut réaliser ses rêves.
Alors Maxence est né entendant. Il joue au rugby depuis 4 ans, mais son audition baisse peu à peu en raison d'une maladie dégénérative. Les médecins sont formels, explique sa maman Christelle.
L'audition qu'il a perdue, c'est déjà irréversible. Et ils lui ont dit textuellement, à terme, tu seras sourd. Ça reste des rêves d'enfant, mais il voulait être rugbyman professionnel, il voulait faire la Marseillaise au Stade de France.
Je pense rugby, je rêve rugby.
Et c'est vrai que quand on a appris tout ça, il y a eu beaucoup de colère, de déception sur plein de choses et ça fait partie des rêves qui ont été un peu brisés par la maladie.
Grâce à un partenariat avec la Société Générale, sponsor de la Fédération, il va pouvoir réaliser ce rêve. Maxence va aussi continuer à jouer dans son club actuel aussi longtemps qu'il pourra entendre l'arbitre, son entraîneur et ses coéquipiers sur le terrain.
Très beau moment donc ce soir avant ce France-Irlande. Merci Timo Rosturc. Coup d'envoi 21h10. C'est une douleur que ressentent des milliers de patients. Ils se sont tous fait poser des prothèses anti-hernie ces dernières années. Problème, ces prothèses sont à l'origine d'effets indésirables qui sont très handicapants. 3000 personnes réunies sur un groupe Facebook préparent en ce moment, avec un avocat, une action collective contre des laboratoires qui les ont fabriquées. C'est le cas de Mathieu. Mathieu témoigne avec un nom d'emprunt. Il est policier en Moselle. Il a été opéré il y a un peu plus de 5 ans à Metz. Emma Steven l'a rencontré.
Pour décrire ses douleurs, plus que des mots, c'est une image que Mathieu utilise.
Prenez un point, votre point, et vous appuyez au niveau de votre haine, au niveau de votre pubis, vous appuyez fortement et vous avez une idée un petit peu de la sensation qu'on a au quotidien.
Une souffrance parmi tant d'autres.
Il y a des douleurs qui sont mais tellement violentes, des douleurs, je vais le dire, testiculaires, Mais des douleurs, mais c'est comme si on vous prenait une aiguille et en vous l'enfonçait au niveau du testicule.
Et quand la crise est trop forte, il doit prendre du tramadol, voire des médicaments à base d'opium prescrits à ce fonctionnaire de police.
Que ça soit quand je conduis, quand je surveille des personnes, il faut que je puisse être à 200%. Donc je ne peux pas prendre ces médicaments, je dois subir ces douleurs. Et ça c'est vraiment très compliqué.
Il a rejoint un groupe Facebook avec plus de 3000 personnes qui racontent leur souffrance après l'opération.
Quand on voit qu'il y a autant de personnes qui se plaignent de quelque chose, il faut qu'on communique là-dessus. D'autres personnes qui se font opérer et se font poser un implant n'ont aucune douleur par la suite. Il y en a aussi, et en grande majorité, je pense même. J'aimerais qu'on entende le petit pourcentage de personnes qui souffrent au quotidien.
Il ne demande aucune condamnation du chirurgien, seulement d'être reconnu comme victime. Mathieu rappelle qu'en France, il est pratiquement impossible de se faire retirer l'implant car l'opération est trop risquée.
Reportage ici Lorraine. 200 000 patients ont recours à ces implants chaque année. Selon les autorités sanitaires, au moins 10% souffrent de douleurs qui vont de très légères à insupportables. Tout cela après l'opération. Nantes, Meaux, Villeurbanne, Bayonne, voilà quelques communes dans lesquelles les policiers ont fait face ces derniers jours à des refus d'obtempérer. Bonjour Emmanuel Leclerc.
Bonjour.
Et encore avant-hier soir à Mantes-la-Jolie dans les Yvelines.
Oui, au Mureau, le récit des policiers qui avaient déclenché aussitôt leur caméra piéton est glaçant avec un conducteur qu'ils prennent en chasse parce qu'il roulait à fond en centre-ville, limité à 30 km/h, qu'il tapait les trottoirs dans les courbes. Les policiers finissent par le coincer une première fois, mais le chauffard, visiblement alcoolisé, a forcé le passage, coinçant deux agents entre sa voiture et celle des policiers. Il a fini par taper une grosse pierre. Fin du périple, trois policiers blessés, mais bien plus légèrement qu'à Nantes en début de semaine, où là, le conducteur avait fait demi-tour pour venir percuter de face la voiture de police qui le suivait à distance. Comme d'ailleurs à Villeurbanne et Vaux-en-Velin hier matin à 4h30, le suspect, après s'être engagé sur une bretelle à contresens, décide de faire demi-tour et vient percuter là encore les policiers qui le suivaient, en terminant lui-même avec un tonneau voiture sur le toit. À l'envers.
Les forces de l'ordre constatent une hausse des cas ?
Alors, il y a eu 28 200 refus d'obtempérer en 2025 et en augmentation de 11% sur un an. Mais là, ce sont 12 policiers qui ont été blessés en 3 jours. On n'avait jamais vu ça. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a rappelé qu'il avait donné pour instruction aux policiers et gendarmes d'engager des courses-poursuites systématiquement.
Emmanuel Leclerc, à Villeurbanne, hier soir, quartier Saint-Jean, deux jeunes cagoulés ont ouvert le feu sur une maison. Une mère de famille a été blessée. Une quinzaine d'impacts de balles ont été retrouvés dans sa chambre. Elle vit dans cette maison avec ses 4 enfants. Cette fusillade pourrait être liée à un trafic de drogue. À Sanary-sur-Mer, dans le Var, les cours ont repris ce matin au collège de la Guicharde, 2 jours après l'agression en classe d'une professeure par l'un de ses élèves âgé de 14 ans. L'enseignante est toujours dans un état préoccupant. Le collégien, lui, était présenté à un juge ce matin. Bonjour Simon Le Baron.
Bonjour.
Vous êtes devant ce collège à Sanary, Simon, et vous avez rencontré ce matin l'un des enquêteurs.
Le commissaire de police de Sanary, Vincent Grasse, qui d'abord nous confirme les suspicions de violence dans la famille de l'agresseur.
On a eu sa sœur en victime de violence, effectivement. Procédure qui avait été classée sans suite et qui avait donné lieu à la mise en place d'un accompagnement social parce que ça avait quand même tiré la sonnette d'alarme et des mesures d'accompagnement social avaient été mises en place.
Et puis, question sur la sécurité dans le collège avant le drame. Y a-t-il eu un trou dans la raquette puisque l'on sait que le garçon était déjà venu avec un couteau et avait parlé de son projet à des camarades?
C'est une information qu'on ignorait totalement jusqu'au moment des faits et c'est une information que tous les adultes de l'établissement ignoraient. Je ne peux pas imaginer une seconde qu'un des camarades qui savait, qui serait allé voir un surveillant, le CPE, le directeur ou un professeur, n'aurait pas trouvé une oreille attentive et que des mesures n'auraient pas été prises.
Le risque zéro n'existe pas, ajoute le commissaire, comme le ministre de l'Éducation nationale avant lui. La police avait d'ailleurs, dit-il, fouillé les sacs plusieurs fois ces derniers mois et régulièrement présente aux abords de l'établissement.
La semaine dernière, on avait encore une présence policière tous les jours, puisqu'il y avait eu des suspicions de rixes programmées à la sortie de l'établissement, dont la direction de l'établissement nous avait fait part. Mais voilà, la présence policière et le bleu partout, malheureusement, ce n'est pas la panacée.
Du bleu, il y en a tout de même devant la grille. Une poignée de policiers pour permettre aux élèves, parents, enseignants de vivre cette journée particulière, journée de dialogue avec toujours l'appui de la cellule psychologique de la manière la plus sereine possible.
Simon Le Baron en direct de Sanary-sur-Mer avec les moyens techniques de Gilles Gallinaro. Alors au-delà de la question de la sécurité des établissements, se pose aussi celle de l'accompagnement médical des élèves en psychologue, en médecin, en infirmier ou infirmière. L'Académie de Nice est l'une des plus mal dotées et le département du Var particulièrement, affirme Dominique Kéroulé. Il est le secrétaire départemental du syndicat SNES-FSU dans le Var.
Nous sommes très mal dotés dans le Var. Nous avons de nombreux postes de psychologues de l'éducation nationale qui ne sont pas pourvus. Et concernant les médecins et la médecine scolaire, alors là, nous sommes vraiment en dessous de tout puisqu'il y a 4 médecins scolaires pour 23 postes, donc 19 qui sont non pourvus. Au niveau médical, moi je pense qu'un élève de la maternelle au bac et à lauréat aura peu de chances de rencontrer, voire aucune chance de rencontrer un médecin scolaire. Même si aujourd'hui, le médecin traitant verra le gamin, mais en termes psychologiques, nous, ce qui est important, on sait que la santé mentale de nos adolescents, des fois, peut poser des problèmes. On a du mal à les mettre en contact avec les services de psychologues, de psychiatres ou de médecins, puisqu'on en a de moins en moins. On a des discours qui nous disent que c'est un problème national, la santé mentale de nos élèves, des adolescents. Et puis derrière, on n'a pas justement les moyens pour répondre à ces demandes.
Dominique Kéroulé au téléphone de l'Aurélie Carive. Lyon, 17 mai 2022, quartier de la Duchère. Dans les hauteurs d'une tour d'habitation, un homme pousse son voisin du 17e étage, René Hadjadj, 89 ans, de confession juive. Cet homme, Rachid Kenich, est jugé depuis le début de la semaine pour meurtre commis en raison de la religion de la victime. Mais lui nie tout caractère antisémite, il plaide le délire paranoïaque. Bonjour Mathilde Imberti.
Bonjour à tous.
Vous êtes notre correspondante à Lyon, vous suivez les audiences depuis le début de la semaine. Mathilde, l'avocat général vient de demander une peine de 20 ans sans la circonstance aggravante d'antisémitisme.
Oui, la loi vous demande de repérer des faits et de vérifier s'il existe un lien avec le meurtre et c'est dur. L'avocate générale s'adresse aux jurés. Pour elle, quelques éléments sont là, effectivement. Par exemple, ce voisin qui a entendu l'accusé menacer par son balcon des bandes de sales juifs, mais pas suffisamment de faits concomitants au meurtre. Elle requiert 20 ans de réclusion sans la circonstance aggravante d'antisémitisme. C'est beaucoup plus clair pour l'avocat de la LICRA et du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives, qui pose la question, est-ce que cette horreur se serait produite si cet homme n'avait pas été juif ? René Hadjadj, défenestré, jeté vivant du 17e étage, qui avait dans sa poche un bout de papier avec une prière en hébreu, papier que le meurtrier va déchirer en petits morceaux après le passage à l'acte. C'est nier la judaïté au-delà de la mort, souligne l'avocat. Cela signe le caractère antisémite. Et lui, l'accusé, qu'en dit-il aux enquêteurs, à la cour ? Je ne suis pas un antisémite. J'étais énervée, c'était un coup de nerf, j'ai entendu une voix. Délire paranoïaque, résume son avocate, qui doit plaider cet après-midi. Dans son box, son client se balance d'avant en arrière, les yeux mi-clos, le visage bouffi, en sueur. Il aura la parole une dernière fois avant le verdict attendu ce soir.
Mathilde Imberti, en direct de la cour d'assises du Rhône.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
La reprise du dialogue avec Vladimir Poutine est en train de se préparer. Voilà ce qu'a dit en début de semaine Emmanuel Macron. Pourtant, les deux chefs d'État, le français et le russe, n'ont plus échangé depuis des mois. Changement de ton donc ces derniers jours. Plusieurs médias font d'ailleurs état d'un aller-retour à Moscou mardi du conseiller diplomatique du président français Emmanuel Bonne. Tout cela alors que Ukrainiens et Russes se sont parlé ce matin à Abu Dhabi sous l'égide des Américains. Bonjour Sylvain Tronchet.
Bonjour Jérôme.
Vous êtes notre correspondant en direct de Moscou. Sylvain, les Européens voudraient-ils rester dans le jeu diplomatique ?
Oui, clairement. Et cette visite d'ailleurs d'Emmanuel Bonne à Moscou n'est pas une surprise. Ces deux derniers mois, Emmanuel Macron a dit à au moins deux reprises qu'il était temps de reprendre le dialogue avec Vladimir Poutine. Il ne lui a pas parlé depuis juillet dernier. Et encore, ce coup de fil intervenait après 3 ans de silence radio. Et l'Élysée et le Kremlin avaient admis que des discussions étaient d'ores et déjà engagées au niveau technique, c'est-à-dire précisément au niveau des Sherpas, Emmanuel Bonne et Yuri Ushakov, qui se sont donc vus. La position de l'Élysée, c'est que l'Europe doit avoir sa place dans les discussions entre Ukrainiens et Russes qui ont lieu actuellement sous le patronage exclusif des États-Unis. Certains pays comme l'Estonie ou la Lettonie plaident même pour la nomination d'un envoyé spécial européen auprès de la Russie. Reste que Moscou privilégie sa relation avec Washington, beaucoup plus accommodant. Le message de la diplomatie française à Moscou, c'est que lorsque la guerre se terminera, parce qu'elle se terminera, l'Europe sera alors en première ligne face à la Russie et qu'il serait bon donc de reprendre le dialogue. Mais pour Moscou, pour l'instant en tout cas, tout ce qui peut affaiblir la position européenne est une opportunité.
Explication signée Sylvain Tronchet, le ministre français des Affaires étrangères. Jean-Noël Barrot lui est en tournée au Moyen-Orient. Première étape ce matin en Syrie. La poursuite du combat contre le groupe État islamique est, dit-il, une priorité absolue. La bombe de la divulgation du dossier judiciaire de Jeffrey Epstein n'en finit pas de faire des dégâts. Le financier criminel sexuel, mort en prison à New York en 2019, avait des centaines de personnalités dans son carnet d'adresses à travers le monde, et certaines sont aujourd'hui accusées d'avoir gardé des liens avec lui alors qu'elles étaient au courant de ses dérives. C'est le cas de Jack Lang en France, qui nie avec énergie. C'est le cas aussi au Royaume-Uni de l'ancien ministre travailliste et ex-ambassadeur à Washington, Peter Mandelson, qui lui aurait transmis des informations financières sensibles à Epstein. Et cette affaire fragilise le Premier ministre britannique Keir Starmer, qu'il avait nommé aux États-Unis. Gaëlle Joly.
Les révélations de ces derniers jours ont provoqué la colère des députés de tous bords, en particulier celle des travaillistes qui se sentent trahis. Keir Starmer a reconnu hier qu'il savait que Peter Mandelson avait continué à fréquenter Jeffrey Epstein, même après sa condamnation pour crimes sexuels. Malgré cela, il a choisi de le nommer ambassadeur à Washington il y a tout juste un an, avant que Mandelson ne démissionne en septembre dernier après une première salve de révélations. Mais les nouveaux documents rendus publics par la justice américaine sont encore plus embarrassants. En 2010, Peter Mandelson, alors ministre, partageait des documents internes avec son ami Jeffrey Epstein, tout juste sorti de prison. Dans les derniers jours du gouvernement de Gordon Brown, il lui rendait même quotidiennement des comptes. Keir Starmer a pris la parole tout à l'heure lors d'un discours. Il s'est excusé. Je suis désolé. Désolé de ce qui vous a été fait. Désolé que tant de personnes en position de pouvoir vous aient trahi. Désolé d'avoir cru au mensonge de Mandelson et de l'avoir nommé. Mais le Premier ministre a déjà perdu une part importante de son autorité au sein du Labour et cette affaire ne fait que raviver l'appétit de ses rivaux qui envisagent ouvertement sa succession. À Londres, Gaëlle Joly, France Inter.
Deux poids lourds européens de l'automobile, Stellantis et Volkswagen, qui demandent un coup de pouce à l'Union européenne, un bonus CO2 pour les voitures qui sont fabriquées en Europe pour, disent-ils, garantir une concurrence loyale. Dans la marche de l'automobile vers l'électrique, pour construire les batteries, par exemple, il faut des terres rares. Sans elles, pas de souveraineté possible. Or, aujourd'hui, l'Europe, mais aussi les États-Unis, sont dépendants de la Chine. Manifestement, cela ne plaît pas aux Américains, qui ont réuni une cinquantaine de pays hier à Washington. Bonjour Claire Chaudière.
Bonjour, bonjour à tous.
Et ça n'est pas forcément une mauvaise nouvelle pour les Européens.
Oui, Washington, quand il s'agit de terres rares, retrouve visiblement un intérêt au multilatéralisme, dont il a pourtant lui-même fait exploser les règles ces derniers mois. À l'issue de cette réunion, des signaux positifs, nous dit une source européenne. L'UE, les États-Unis et le Japon s'engagent à relancer la coopération sur ce sujet ultra stratégique, à faire un état des stocks respectifs d'abord et à discuter de la possibilité de fixer un prix plancher d'achat pour un certain nombre de pays et d'acteurs industriels. Parce que le sujet, Jérôme, c'est que pour recréer un véritable outil industriel de raffinage de terres rares en Europe ou ailleurs, il faut que l'activité soit rentable. Or, Pékin casse les prix, ce qui complique la donne. Ce projet de prix plancher, c'est donc un point crucial pour Karl Grécou, économiste au CEPI, le Centre d'études en économie internationale.
On instaure un prix minimum pour développer justement une alternative à la production chinoise. On y met le prix. Concrètement, il faudra que les industriels soient prêts à payer des matières premières un peu plus chères pour se soustraire de la dépendance. C'est le prix à payer pour la liberté industrielle, c'est le prix à payer pour l'autonomie stratégique.
Un chantier qui reste malgré tout colossal, hein, la reconstitution d'une véritable industrie de raffinage des terres rares prendra, selon cet économiste, 10 à 20 ans. Et la présence des États-Unis autour de la table est à double tranchant, Washington pouvant accélérer le processus ou bien le faire dérailler à tout moment.
Éclairage Claire Chaudière, les municipales. Notre rendez-vous chaque semaine s'appelle les clés des municipales. Bonjour Maxence Lambrecq.
Bonjour.
On va parler du budget avec vous dans un instant, mais l'actualité des municipales, c'était ce matin à Paris, la présentation du programme du socialiste Emmanuel Grégoire, qui veut succéder à Anne Hidalgo et qui revendique la continuité, Laurence Perron.
Emmanuel Grégoire l'affirme avec force, il assume totalement le bilan d'Anne Hidalgo.
Je n'éprouve que fierté et gratitude et reconnaissance.
Il revendique tout, l'éviction des voitures, la révolution du vélo, la transformation du périphérique en boulevard urbain. Il va même pousser la végétalisation et la piétonnisation des rues de la capitale.
La question n'est pas d'emmerder les automobilistes. La question, c'est de protéger la santé des franciliennes et des franciliennes.
Il défend l'idée d'une ville qui protège les plus faibles. 60 000 logements sociaux en plus à l'ouest, une brigade de protection des locataires, 4 000 places d'hébergement d'urgence qu'il compte d'ailleurs faire payer à l'État, zéro enfant à la rue. Il compte aussi s'opposer aux fermetures de classes envisagées dans la capitale.
Qui sont inacceptables, qui s'annonce énorme.
À la question épineuse de la dette, il s'insurge.
Sur la dette, je le dis et je l'assume totalement, le procès complètement fantasque qui est fait par la droite sur le niveau de la dette insoutenable, il parle de banqueroute, il parle de mise sous tutelle, ce sont des mensonges.
Pas un mot contre LFI qui fait cavalier seul. Son ennemi, il l'assume encore, c'est ce qu'il appelle la droite réactionnaire, Rachida Dati et Sarah Knafo.
Laurence Perron, alors ces projets, à Paris comme ailleurs, il faut les financer, ça c'est le budget. Maxence Lambrecq, on va prendre un peu de temps pour savoir qui écrit vraiment ce budget. Comment voit-il le jour ?
Alors c'est très différent entre une commune de 800 habitants et de 100 000. Commençons par la plus petite. Je suis candidat dans un village, mais je n'y connais rien aux finances. Je suis prof d'histoire géo et j'ai un mois pour faire voter le budget de l'année puisque je serai élu le 22 mars et la date limite est fixée au 30 avril. D'abord, rendez-vous avec le secrétaire de mairie. Il ou elle voit passer toutes les factures, les emprunts, les bulletins de paye, on débroussaille. Ensuite, je me rends dans le chef-lieu du canton avec le service de gestion comptable. Ça, c'est une antenne de l'État avec des fonctionnaires spécialistes qui ont tous les chiffres, les graphiques. J'ai ce qu'on appelle un conseiller aux décideurs locaux. Lui peut venir dans mon village, me faire un point précis, dotation, autofinancement, la colonne des plus et des moins. Et en fait, l'essentiel est figé pour l'année en cours. Je peux y ajouter ma petite touche, quelques caméras en plus, des ralentisseurs, mais le reste est sur des rails. Masse salariale, remboursement des prêts, j'ai pas le temps d'improviser un investissement. Et d'ailleurs, il faut que je toque à une autre porte pour cela.
Laquelle ?
Alors, l'agence technique départementale, service quasiment gratuit, avec des spécialistes du financement et de l'urbanisme. Je veux rénover l'école. Ils viennent la visiter. Ils chiffrent les travaux, préparent le dossier technique, l'appel d'offres, les demandes de subventions, incontournables. 1 euro dépensé par la commune, c'est 2 à 3 euros d'aide. Parfois, on monte à 80% de subventions. Et c'est comme ça qu'on peut passer au double vitrage dans l'école ou au LED pour les lampadaires, ce qui a été l'investissement le plus courant lors de ce mandat.
Est-ce qu'il y a d'autres portes à pousser ?
Oui, celle de la communauté de communes, l'échelon du dessus, qui a plus de leviers, souvent des experts financiers, plus les associations d'élus qui proposent toute l'année des formations type le budget pour les nuls.
Pas besoin de cabinet de conseil privé ?
Alors c'est plutôt rare dans les petites communes parce que la moindre étude représente vite 5 à 10 000 euros. Je l'appelle dans trois cas de figure. Le premier, pour justifier une hausse d'impôts, un expert indépendant vient présenter aux habitants le gouffre dissimulé dans le passé. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont ces chiffres.
Ouais, c'est plus facile, ça passe mieux.
Voilà. Le deuxième, c'est pour chercher des financements complexes, notamment des fonds européens, des fondations privées. Il existe des spécialistes de la subvention. Et le troisième, c'est pour monter un projet très ambitieux qui sort complètement de l'ordinaire d'une petite commune.
On a parlé de Paris, les grandes villes, elles y ont davantage recours.
Oui, la Cour des comptes le dénonçait dans un rapport cet été, recours de plus en plus fréquent et parfois pas très justifié. C'est devenu un automatisme dans beaucoup de grandes villes, le recours au cabinet de conseil, pour que ce soit plus rapide, plus flexible, pour des dossiers complexes, avec des normes qui ne cessent d'évoluer. Mais dans les grandes villes, l'essentiel se fait en interne, avec la direction financière qui traduit les promesses politiques en tableur Excel et freine certains projets. L'adjoint aux finances qui arbitre et le maire qui, à la fin, communique.
Merci Maxence Lambrecq. Chaque semaine dans ce 13-14, ça s'appelle Les clés des municipales. Vous avez tous les épisodes précédents sur l'application Radio France, évidemment à la page du 13-14, mais pas seulement. La grève des marins de la compagnie Corsica Linea, deux navires qui devaient accoster ce matin à Ajaccio et Bastia ont été déroutés vers Propriano et l'île Rousse. Ces marins dénoncent le dumping social d'une autre compagnie, Corsica Ferries, qui, elle, opère sous pavillon international italien. Et on en arrive donc à ces changements en cascade annoncés ce matin dans la direction des chaînes de Radio France. Ça concerne notamment France Inter. Alexandra Hakoun, vous êtes avec nous pour nous aider à comprendre. Avec le départ d'Adèle Vendrette, qui dirigeait France Inter depuis 4 ans, elle cède sa place à Céline Pigalle.
Oui, et ce sera effectif dès le 2 mars. Alors, entrée à Radio France en 2023, Céline Pigalle, 54 ans, est passée par Europe 1, iTélé, BFM TV, dont elle a dirigé la rédaction. Elle chapeautait jusqu'à présent le réseau des radios locales ici et l'information de Radio France. À France Inter, elle sera directrice de la chaîne et de l'information, entraînant en cascade en effet des changements, l'arrivée notamment de Laurent Guimi à la tête du réseau ici. Agnès Varamian, elle se retrouve avec une double casquette, directrice de France Info et de l'information du groupe. Alors toutes ces évolutions, elles interviennent dans un contexte déjà tendu pour la radio publique, d'après la dernière vague médiamétrie. France Inter est toujours première radio de France avec plus de 7 millions d'auditeurs, mais les audiences de France Info et d'ici ont accusé un vrai recul. Ajoutez à cela un budget 2026 se resserrer, une commission d'enquête parlementaire sur son impartialité et des médias privés qui ne cessent de la critiquer. Tous ces changements devraient permettre à Radio France d'aborder la présidentielle de 2027 avec une équipe stabilisée, a expliqué sa présidente Sybille Veil aux équipes ce matin. Des équipes, il faut bien le dire, un peu sonnées.
Décryptage Alexandra Hakoun, c'est le chiffre du jour. Pour encaisser le vieillissement de la population, il va falloir créer 365 000 places de plus en EHPAD. Il y en a 640 000 aujourd'hui, c'est dire la marche à franchir. Et bien dans ce contexte, le gouvernement a annoncé hier soir que le plan grand âge était reporté. Il devait être dévoilé la semaine prochaine. C'était une promesse d'Emmanuel Macron en 2022, mais avec le départ annoncé du gouvernement de la ministre Charlotte Parmentier-Lecoq, le calendrier est bousculé. Encore du temps perdu, regrette Olivier Vignol, président exécutif de Domitis, le leader des résidences services seniors en France.
Depuis 2007, ça fait la cinquième fois qu'un plan grand âge est annoncé puis reporté. Pendant ce temps-là, les années passent. Les seniors de plus de 75 ans vont passer de plus de 4 millions à plus de 6 millions entre 2020 et 2030. Donc c'est l'effet du baby-boom d'après la Deuxième Guerre mondiale qui va arriver à partir de 2028, quand ces gens-là auront 82 ans et plus. Il va y avoir un besoin massif de financement, de ressources humaines et de lieux de vie. Et on ne saura pas comment les accueillir. Il n'y aura pas de place pour tout le monde en EHPAD, pas de place suffisante dans l'habitat intermédiaire. Il n'y aura pas assez de ressources humaines, que ce soit des auxiliaires de vie ou des aides-soignants. Pour ce premier pépi-boom qui nous attend dans 2 ans, rien n'a été préparé et c'est extrêmement dommage pour les seniors eux-mêmes. Ouais.
Le président exécutif de Domitis au téléphone d'Alice Cachaner. Le début des Jeux Olympiques d'hiver en Italie, Milan, Cortina, cérémonie d'ouverture demain soir à Milan, mais ça commence dès aujourd'hui pour les sportifs français en lice avec une première. Bonjour Xavier Monferrand.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Vous êtes en direct de la patinoire de Milan, l'équipe de France de hockey sur glace, l'équipe de France féminine va disputer ses premiers jeux dans, allez, un peu plus d'une heure face à l'Italie. C'est en fait le premier temps fort pour cette équipe de France, Xavier.
Exactement, ce sont les premières athlètes françaises à représenter le drapeau lors de ces Jeux de Milan, les premières en lice qui vont affronter le pays hôte, l'Italie, dans cette patinoire qui a tant fait parler. Vous en avez tous entendu parler de cette patinoire pas terminée, très en retard. Eh bien, pour être sincère, il y a une glace, il y a des rambardes, il y a des gradins à la télé. Vous verrez,
vous êtes bien assis,
tout ira bien. En coulisses, c'est plus compliqué. Clairement, le site n'est pas fini et c'est le cas pour plusieurs sites. On sent bien que c'est un petit peu à l'arrache quand même. Mais voilà, en tout cas, les épreuves auront lieu. Les glaces sont ce qu'elles sont. Les athlètes en parlent. On était ce matin avec le patinage de vitesse. Ils ont un peu de mal avec la glace pour l'instant. Mais voilà, en tout cas, tout est en train de se mettre en ordre. Et effectivement, pour les Françaises, c'est une grande première. Elles n'ont jamais participé aux Jeux, les hockeyeuses françaises. Grande première, le hockey féminin est olympique depuis 98, donc vous voyez, eh bien, ça fait 28 ans qu'elles attendaient ça, les Françaises, de disputer enfin ces JO.
C'était le premier direct depuis Milan Cortina pour ces Jeux Olympiques d'hiver dans ce 13-14. Ce ne sera pas le dernier. Merci Xavier Monferrand, en direct de la patinoire de Milan, 13h28 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo de Céline Dacosta qui nous rejoint à l'instant. Puis à partir de 13h30, nous parlons de l'Iran, l'Iran vu de l'exil. C'est la pièce de théâtre intitulée 4211 km. Elle est rejouée depuis hier soir à Paris. Nous sommes avec son autrice, metteuse en scène, qui est aussi sur scène, Ayla Navidi, avec nous dans un instant. 01 45 24 7000 pour vos questions. 13h45, notre feuilleton, l'histoire d'un changement de vie qui se termine à la ferme dans le Beaujolais. 13h50, c'est la France. Bonjour Marie-Luce Ribaud.
Bonjour Jérôme.
Aujourd'hui, à la veille des vacances d'hiver, des recettes de montagne.
Alors que c'est le coup d'envoi des vacances d'hiver, nous allons voir qu'on peut s'affranchir du triptyque tartiflette, raclette, fondue.
Et dans C'est une chanson, Frédéric Pommier, avec un triple médaillé olympique, l'escrimeur Enzo Lefort qui demande Khabib du rappeur londonien Central Cee.
J'ai écouté ma première fois en découvrant l'album de l'artiste et tout de suite elle m'a parlé parce qu'il y a quelque chose qui me fait voyager, qui me motive en même temps tout en mettant quelque chose de sensible et de poétique.
Tout cela dans quelques secondes, à tout de suite.
Ce vendredi sur France Inter, enquête sur le trafic de pesticides interdits.
18h15, Benoît Colomba.
C'est un monde opaque avec ses propres réseaux, vente sur le net à des particuliers ou livraison discrète à des agriculteurs. Nous sommes partis sur la trace de ces trafiquants de pesticides.
Évidemment, à partir du moment où il y a quelque chose qui est interdit, ça attire les convoitises. Et donc, ça attire aussi des acteurs d'interlopes qui vont se faire beaucoup d'argent.
Révélation. Le magazine d'investigation de France Inter.
C'est ce vendredi, après le journal de 18h.
France Inter présente Un hiver avec Matisse, un livre et un podcast d'Antoine Compagnon.
Cet admirateur de la couleur et de la lumière disait n'avoir jamais eu qu'une seule idée. Nous essayerons de la trouver. Ce rendez-vous avec Matisse, c'est la promesse de peindre l'hiver en bleu et de danser dans un grand paysage rouge ou vert.
Un hiver avec Matisse, d'Antoine Compagnon, un livre illustré enrichi d'un podcast disponible sur franceinter.fr et l'appli Radio France.
Chez Optique 2000, on sait que vous avez sûrement des vieilles lunettes cachées chez vous. Jusqu'au 15 mars, on vous offre 50 euros de remise immédiate sur une nouvelle paire si vous nous les rapportez. Allez, on vous laisse chercher. Dans votre tiroir fourre-tout ou dans vos vieux cartons qui dorment au fond du garage. Bref, si vous retrouvez vos vieilles lunettes, rapportez-les chez Optique 2000. Votre opticien vous offre 50 euros de remise immédiate sur votre nouvelle paire. Optique 2000, on va se revoir. Voir conditions en magasin, dispositif médical, demandez conseil à votre opticien.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec les cafés Malongo, torréfacteurs engagés depuis 30 ans dans le commerce équitable. Les petits producteurs font les grands cafés sur malongo.com.
Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Encore de bonnes averses sur l'ouest du pays cet après-midi.
Oui, on a la perturbation qui est arrivée ce matin par les côtes atlantiques qui rentre un petit peu plus dans les terres. On retrouve ces bonnes averses entre la Bretagne, la Basse-Normandie, les Pyrénées, le Languedoc-Roussillon. Averses parfois soutenues, surtout sur la Bretagne. Le Morbihan est d'ailleurs en vigilance orange, pluie et inondation. Autre vigilance qu'on va surveiller avec ces averses, c'est la vigilance orange pour crue sur la Gironde. De bonnes rafales de vent également avec cette perturbations et des vagues importantes sur les côtes atlantiques, peut-être même un coup de tonnerre sur les côtes aquitaines. Pour l'est du pays, pour l'instant, c'est sec. Avec un soleil voilé, les averses arriveront dans la soirée.
Et de la douceur.
Oui, toujours au-dessus des normales de saison, de 3 à 5 degrés. À part sur le sud-est où on est proche des normales, la moyenne va de 10 à 16 degrés du nord au sud.
Merci Céline Dacosta.
France Inter. Le 13-14. Jérôme Cadet.
Nous allons continuer de parler de l'Iran dans ce 13-14 dans les prochaines minutes, comme nous le faisons régulièrement sur France Inter. Ces derniers jours, le réalisateur Jafar Panahi était avec nous avant-hier. Il en sera question également ce soir dans Un jour dans le monde avec Fabienne Sintès. C'est à la fois un choix que nous faisons, c'est aussi une nécessité, tant l'ampleur de la répression donne le vertige. Plus de 30 000 morts en quelques jours, entre les 8 et 11 janvier, c'est ce que nous disent les ONG. Bonjour Ayla Navidi.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, vous êtes autrice, metteuse en scène, comédienne. Vous étiez hier soir sur la scène du théâtre Marigny où était donnée à nouveau votre pièce 4211 km, pièce dans laquelle vous racontez l'histoire d'une famille contrainte à l'exil en France après l'arrivée des islamistes au pouvoir en Iran en 1979. C'est une pièce que vous avez créée il y a quelques années maintenant, qui a beaucoup tourné en France, près de 65 000 spectateurs, qui est donc rejouée depuis hier soir avant de repartir en tournée dans les prochains mois. Et vous vous êtes adressé au public hier soir après la pièce pour dire à quel point c'était important pour vous en ce moment de le faire, de jouer.
Oui, en fait, c'est impossible aujourd'hui de jouer cette pièce sans... expliquer en fait et faire le pont avec ce qui se passe avec l'actualité. C'est très complexe aussi de la jouer dans ces temps-là, mais le courage des Iraniens et l'ampleur du massacre qu'il y a eu nous oblige. Elle m'oblige déjà, moi, en tant que fille de réfugié politique iranien. Mais je pense qu'au-delà de ça, elle oblige aussi l'équipe qui est simplement en fait des acteurs qui sont des êtres humains et qui, tous les jours, utilisent leur liberté et se rendent compte à quel point ce qui est en train de se passer en Iran est abominable et à quel point ce crime contre l'humanité est quelque chose qu'il faut qu'on dénonce. Et nous, notre moyen, c'est la culture. Donc, comme je l'ai dit hier, c'est un acte de résistance. Je pense que c'est notre moyen d'expression. Certains le font par le journalisme, d'autres le font par la politique. Moi, ma voix, c'est celle de raconter cette histoire et laisser les spectateurs, après, s'interroger sur ce qui s'est passé et après s'informer au-delà. et je l'espère, relayer aussi à leur tour la voix des hommes et des femmes iraniennes et iraniens qui se sont fait massacrer et qui aujourd'hui sont sous le joug de la République islamique.
Vous faites voir au public le nom des victimes, pas toutes les victimes, il y en aurait pour des heures, évidemment. Comment est-ce que vous avez suivi ces événements ces dernières semaines?
C'est très difficile. En fait, mettre les noms des victimes, c'est quelque chose qu'on a commencé à faire déjà au moment du mouvement Femmes, Vie, Liberté.
Ouais.
C'est-à-dire que...
La mort de Mahsa Amini.
Exactement. Après la mort de Mahsa Amini, il a été question, et des avocats et des avocates ont commencé à lister, dans l'idée, un jour, de porter le régime islamique sur un tribunal international et les accuser de crimes contre l'humanité. Et en fait, c'était une nécessité pour moi de faire perdurer ça sur les années, parce qu'on sait que c'est un combat qui est long. C'est un combat qui, je l'espère et j'en suis sûre, sera victorieux. Néanmoins, la façon dont j'ai vécu les choses, et là je vais vous parler de quelque chose qui n'a peut-être rien à voir en fait avec la pièce au départ, mais qui est simplement moi en tant que franco-iranienne et comme tous les Iraniens qui sont aujourd'hui ici, on est abasourdi par ce qui s'est passé. L'ampleur du massacre est quelque chose d'abominable, c'est innommable ce qu'ils ont fait. Voilà, l'Europe les a mis sur... sur la liste des terroristes. Et je pense qu'il faut le rappeler, il n'y a pas d'autre mot que de dire que ce sont des terroristes. C'est-à-dire que recevoir les images après le blackout, voir qu'ils ont tué par dizaines de milliers, et aujourd'hui on utilise ces chiffres, vous avez dit tout à l'heure, moi ce que j'entends c'est plus de 36 000, la réalité est peut-être bien au-delà de ça. Et surtout, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il y a eu ce massacre, mais qu'aujourd'hui, il est en train de se passer quelque chose qui est l'étape numéro 2, qui est que maintenant qu'ils ont mis l'Iran sous état de choc, ils sont en train de continuer de réprimer le peuple. Il y a des personnes qui sont blessées, qui n'ont pas été soignées. Il y a des médecins qui sont traqués, qui sont arrêtés. Il y a des personnes aujourd'hui, par centaines de milliers, qui sont dans les prisons politiques. Et ces personnes-là, on ne connaît pas l'issue de leur chemin, de leur vie. Vont-ils être exécutés? Sont-ils certainement en train d'être torturés? Et tout ça nous met dans un état à la fois de choc, mais aussi... ce que je disais, elle nous oblige en fait. En tout cas, moi, je me sens obligée et de porter la voix des femmes iraniennes et iraniennes et de continuer le combat en exil parce que j'ai la liberté de prendre la parole et j'ai la liberté de jouer cette pièce. Et c'est ma manière à moi de relayer leur voix.
Et peut-être de conjurer l'impuissance qu'on peut ressentir quand on est loin, d'écrire et de jouer, de monter sur scène?
Je pense que dans l'écriture et dans le jeu, il y a quelque chose pour moi d'essentiel qui est que je laisse une trace. Je laisse une trace et il y a quelque chose qui va, à un moment ou à un autre, résonner. Que ce soit dans des salles, que ce soit une personne qui va le lire aujourd'hui, demain, après-demain. Et c'est une façon d'honorer des mémoires et de faire en sorte qu'on n'oublie pas ce qui est en train de se passer. Donc, ce sentiment d'impuissance, effectivement, il peut être combattu, en tout cas à mon endroit comme ça. Mais il y a aussi autre chose qui est important, c'est qu'en fait, face à des personnes qui ont eu le courage d'aller dans la rue et qui se sentaient eux aussi bien plus impuissants que moi, je peux me sentir impuissante. Et qui, au moment où ils vont dans la rue, pendant toute cette période, à partir du 28 décembre, savent qu'il y a 9 chances sur 10 de mourir.
Ils savent ce qu'ils risquent.
Exactement. Comment moi, je peux me laisser la possibilité de me dire que je suis impuissante? J'ai tellement de moyens ici, en France, que j'exercerai ma liberté jusqu'à la fin de mon travail de comédienne, de metteuse en scène et d'auteur.
Liberté, vous avez dit le mot, c'est un mot qui revient beaucoup dans la pièce. 4211 kilomètres, c'est la distance entre Paris et Téhéran. Liberté, c'est l'un des mots du triptyque, liberté, égalité, fraternité, qui font dire à Yalda qu'elle aime la France, quand à un moment dans son parcours, elle se dit qu'elle veut devenir citoyenne française.
Oui, en fait, moi, dans mon cas, mes parents et je pense beaucoup de personnes qui ont choisi la France comme pays d'exil à l'époque sont venus pour ça, sont venus pour ces trois valeurs. Et comme on le dit aujourd'hui, je pense que le peuple iranien en connaît vraiment la valeur et l'importance. Et c'est effectivement cette devise qui, je pense, nous rassemble, doit nous rassembler, et qui fait qu'aujourd'hui, moi, en tant qu'étrangère, quand j'ai fait ma demande de nationalité, c'est à cet endroit-là que je me suis sentie le plus française. C'est-à-dire que c'est une interrogation aussi que j'essaye d'avoir avec ce texte. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui être français ? Qu'est-ce qui nous rassemble ? Qu'est-ce qui fait que vous et moi, aujourd'hui, on est français et pourtant nous n'avons pas la même histoire ? Moi, la façon dont je me retrouve, je pense, avec vous, c'est sur un système de valeurs et c'est sur ce socle-là qui, malheureusement, parfois, aujourd'hui, avec la montée des extrêmes, est de plus en plus menacé. Néanmoins, je pense que c'est important de le rappeler sur scène. Et ça, c'est l'autre pendant de la pièce que j'essaye de mettre en avant, de nous rappeler et de reconvoquer, en fait, notre conscience politique et nos valeurs fondamentales qui ont créé la République française.
Vous rappelez aussi, et c'est, je trouve, une des grandes vertus de la pièce, l'histoire de l'Iran de ces dernières années, d'où vient cette République islamique, les personnages, les parents de Yalda qui fuient l'Iran pour la France, sont réprimés par la police du Shah d'Iran, ce roi qui était là avant la République islamique. Et au fond, le cadre de la répression, notamment cette prison d'Evin à Téhéran, bien connue malheureusement, cette prison était déjà le théâtre de répression à la fin ou pendant les années 70.
Oui, tout à fait. En fait, là, dans l'histoire de 4211 km, il y a eu deux phases. Il y a eu une première phase qui était l'opposition, effectivement, au manque de liberté d'expression politique, journalistique et même artistique du Shah. Cette prison a été créée à l'époque par le Shah d'Iran. Et même si il est important de rappeler que le régime du Shah et le régime islamique est incomparable. Néanmoins, la pré-répression existait, elle était forte. Et après, effectivement, quand ça a basculé et que la révolution a eu lieu, la façon dont la révolution a été volée par les islamistes et par Khomeini qui était en France est aussi racontée. Et je pense que c'est important de revoir l'histoire parce que parfois on a tendance à oublier ce qui s'est vraiment passé. Et qu'est-ce qui fait qu'en fait on bascule ? Comment on arrive à une dictature ? Et comment on passe d'une dictature à un régime terroriste, autoritaire, jusqu'à voilà, aujourd'hui ?
Quand on est fille de réfugiés politiques qui ont fui la République islamique, mais qui ont été aussi réprimés par la police du Shah d'Iran. Comment on entend les appels d'une partie de la population à une arrivée de son fils, Reza Pahlavi, comme étant la possibilité d'une sortie politique et d'un changement de régime ?
Vous savez, moi je suis quelqu'un qui considère qu'il faut toujours entendre la voix du peuple. Maintenant, à titre intime, j'ai évidemment des convictions. Ce qui est important de dire aujourd'hui, c'est qu'effectivement, une partie de la population a appelé le fils de Reza Pahlavi. Néanmoins, je pense que l'Iran est un pays de 93 millions d'habitants et qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est pas de savoir qui, mais c'est de savoir aujourd'hui. Enfin, c'est pas de savoir, c'est de faire tomber cette République islamique pour arriver à mettre en place des élections. Et si Reza Pahlavi fait partie de ces élections démocratiques, eh ben, ce sera au peuple de décider. Moi, je suis qu'un porte-voix et c'est quelque chose d'important. Il faut le dire, il faut dire effectivement que ce peuple-là, et qui, pour une partie, n'a certainement pas connu aussi l'époque du Shah, voit en son fils, une possibilité. Mais je pense qu'il y a aussi d'autres gens, que les prisons sont pleines d'opposition politique et cette opposition face à un régime autoritaire ne peut pas naître. Et il faut laisser la possibilité d'avoir une pluralité politique. C'est à partir du moment où on a une pluralité, les royalistes en feront partie, qu'il y a une possibilité de changement vers une démocratie. En tout cas, c'est comme ça que moi, je le conçois.
Alors, cette pièce, 4211 km, elle nous retrace la vie de ces réfugiés iraniens en France, mais au fond, elle va beaucoup plus loin, elle est universelle dans son propos. Ça pourrait être la vie d'autres réfugiés qui ont quitté un autre pays et qui se retrouvent à un moment, en tout cas pour la deuxième génération que représente Yalda, l'héroïne sur scène, qui est tiraillée entre deux monde. Il y a des questions d'identité. À quel pays est-ce qu'on appartient quand on est né en France, mais que ses parents sont arrivés d'Iran ? Ça vaut pour l'Iran, mais ça vaut pour beaucoup d'autres pays.
Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que je pense que, en tout cas, ma volonté dans cette écriture, c'était d'apporter une forme plus universelle sur la problématique de l'identité. Je me suis, à partir de mon intime, je me suis dit, les interrogations que moi j'ai eues et les difficultés auxquelles j'ai eu à faire face, c'est-à-dire toute cette période où on se cherche en tant qu'adolescente, à savoir la culture qu'on a reçue dans un cadre qui est beaucoup plus communautaire aussi, parce que moi j'ai grandi avec une famille, avec l'espoir de rentrer, donc j'étais très entourée par des Iraniens. Je pense que c'est exactement ce même type de schéma qui se produit aussi chez d'autres enfants de réfugiés, d'immigrés, qui vivent dans une culture qui est complètement différente. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est, je voulais raconter aussi pour donner une fenêtre à voir à des personnes qui pourraient avoir des a priori, voire être tentées par le vote de l'extrême droite, de raconter avec une forme de réalité. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui le parcours de réfugiés politiques? Qu'est-ce que c'est que le parcours d'immigrés? Pourquoi ils sont là? Qu'est-ce qu'ils sont venus faire ici? Et le fonctionnement qu'il y a autour de ça, plutôt que de diaboliser justement toute une frange de la population. Ça, c'était important pour moi de le rappeler dans ce contexte qui est aussi tendu que celui qu'on est en train de traverser.
La question que je me posais en regardant la pièce, c'est comment des gens peuvent pendant 40 ans se dire que demain, ils vont rentrer, ou dans un mois, ou dans un an, et en fait, ça n'arrive jamais.
En fait, je vais vous dire quelque chose, je pense que c'est pas politique le comment, je pense que c'est juste une question d'amour. Vous savez, le peuple iranien, je vais parler de ceux que je connais, c'est-à-dire mes parents, il faut comprendre que le comment est lié à qui est encore dans le pays. Quel amour on a pour ce pays-là.
Pour ces personnes aussi.
Quand on a son père, quand on a son frère, quand on a sa sœur, ses neveux, ses nièces qui vivent là-bas et qui vivent sous l'oppression, je pense qu'on peut passer toute une vie à espérer leur liberté et à espérer les retrouver pour leur dire au revoir. Et c'est ça qui est compliqué, c'est comment on vit cette distance-là. Et ça, j'avais envie de raconter que c'est un amour qui est indélébile, qui est universel et qui dure toute une vie, en fait.
Vous êtes déjà rendu en Iran, Ayla Navidi?
Non.
Jamais?
Non, j'ai jamais été en Iran.
Vous avez, c'est le rêve de votre vie, de vous y rendre un jour?
Oui, c'est le rêve ultime de ma vie, de pouvoir y aller, de pouvoir aller sur la tombe de ma grand-mère, et puis de retrouver ma famille, et juste de poser mes pieds sur cette terre-là que je fantasme depuis ma naissance.
Je l'ai dit, cette pièce, elle est jouée à nouveau au Théâtre Marigny à Paris. Elle a été jouée partout en France. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous échangez avec des gens qui viennent voir la pièce et qui peut-être connaissent mal l'histoire de l'Iran, cette histoire-là?
C'est toujours très émouvant. C'est-à-dire que ce soit des personnes qui connaissent l'histoire de l'Iran, des Iraniens déjà, il y a quelque chose de très émotionnel entre eux et nous. Et puis après, quand on arrive avec des personnes qui ne connaissaient pas du tout l'histoire, ça me donne énormément d'espoir. Ça me donne de l'espoir sur l'humanité, parce qu'en fait, à Paris, on s'adresse à une certaine catégorie de spectateurs parisiens qui vont peut-être plus au théâtre. Et puis quand on va dans des plus petites villes où ces personnes-là, parfois, ont moins accès à la culture, on se rend compte à quel point, à partir du moment où on arrive à créer un lien humain avec les gens s'intéressent, les gens s'interrogent, les gens ont envie de s'engager, les gens demandent comment est-ce qu'on peut faire pour aider? Est-ce qu'il y a le moyen de faire quelque chose? Et du coup, c'est générateur de beaucoup d'espoir sur, finalement, l'humanité qui reste au sein de nos citoyens.
Et ça fait du bien.
Ouais.
Merci d'avoir été avec nous.
Merci
aujourd'hui.
Infiniment.
Ayla Navidi, 4211 km, votre pièce en ce moment au Théâtre Marigny à Paris, et ensuite à nouveau cette tournée partout en France. 13h47 sur Inter. Une semaine dans leur vie. Quatrième épisode de notre feuilleton, toujours dans le Rhône, avec Guy Lingrange, chercheur en agronomie. Il a quitté l'université il y a quelques années pour devenir éleveur laitier en reprenant la ferme familiale. Mais son quotidien lui rappelle tout de même certains de ses sujets de recherche. C'est le cas par exemple avec la gestion du fumier des bouses.
Là, on a un mélange de bouses de vache, de paille et de céréales récoltées sur la ferme. On mélange tout ça. On y répand et ça peut faire pousser les végétaux.
C'est le racleur automatique. Donc c'est la partie où les vaches mangent.
C'est là où elle dépose le plus de bouse, et donc on a un système avec un racleur automatique qui passe deux fois par jour pour repousser les excréments. Donc l'idée, c'est de tout récupérer, parce qu'en bio, c'est notre seule source de fertilisant. Donc ça nous sert d'engrais. C'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus local que des petites billes d'azote chimiques fabriquées à Beyrouth. La merde, c'est très important. Pendant mon diplôme d'ingénieur, j'ai eu la chance de faire des stages et des échanges, ça s'appelle Brafagri, donc notamment au Brésil. J'ai fait un stage en Ouganda. Mon mémoire de fin d'études, je l'ai fait au Sénégal, dans le bassin Rachidier, dans les environs de Dakar. Alors c'était un sujet de recherche avec le CIRAD, qui est un centre de recherche en agronomie tropicale, sur l'étude des cycles du carbone et de l'azote. Là-bas, la réutilisation des déjections ou ce genre de choses-là, c'est des intrants à faible coût. On appelle ça de l'intensification écologique. Utiliser les processus naturels pour le moins de pertes possible, parce que les pertes, ça veut dire qu'après, il faut acheter d'autres choses à l'extérieur pour compenser. En recherche, ce qui est très intéressant, c'est que du coup, on a des protocoles pour quantifier l'effet que ça a. Et je me souviens des parcelles de 1000 au Sénégal, avec ou sans déjection animale, on voit bien la différence. Donc ça convainc de l'importance, enfin de la richesse de cette matière. C'est pas très valorisant, la bouse. Ici, justement, c'est une ressource hyper précieuse. Moi, qui ai repris la ferme en 2024, c'est plutôt récent et j'ai la chance de reprendre un outil déjà bien réfléchi. Donc la ferme est en bio depuis 2002.
Si tu veux, on va prendre la voiture, on fera le tour des bêtes en même temps si ça te fait rien. Checker, elles sont juste là. Donc là, c'est une parcelle, c'est des colzas fourragés. Nous, on produit toute l'alimentation des animaux. La seule chose qu'on achète, c'est du sel et des minéraux.
Émeric Morel, vous êtes l'associé de Guilin. Vous avez été associé à son père d'abord. Quelle est la différence entre le père et le fils ?
Oula, cette question est difficile. De par ses études, il a des envies d'essayer des choses. Et, par exemple, sur les prairies, les semis de prairies, la chicorée, on recultive de la chicorée depuis 2 ans. C'est depuis qu'il est là. C'est pas une plante que je connaissais. Lui, c'est une plante qui savait adapter aux conditions sèches, qu'il avait envie d'essayer. Donc, on l'a intégré dans nos mélanges prairiales directement. C'était la chicorée, c'était il y a 2 ans. Cette année, on a essayé le plantain. Ça tire tout le monde vers le haut, quoi, je trouve. Moi, ça me permet de me remettre en question et d'essayer de lui faire de la place et d'essayer des nouvelles choses aussi, des choses auxquelles je connais pas forcément et auxquelles j'aurais pas forcément pensé. Et du coup, oui, bien sûr qu'il y a un espace pour ce genre de test, quoi. Après, je pense que des fois, il y a un peu de frustration parce qu'il y a des choses qu'il a envie d'essayer mais qu'on a déjà essayé par le passé et qu'on sait que ça fonctionne pas forcément chez nous. Donc, voilà, je pense peut-être que ça attire un peu des frustrations. Après, voilà, c'est notre relation de trouver un équilibre, moi, de lui laisser de la place. Et lui, des fois, d'accepter qu'il y a des choses que ça sert à rien d'essayer parce que ça a déjà été fait et qu'on sait que ça fonctionnera pas, quoi. Ça confronte un peu la théorie et la pratique, et des fois le choc il est un peu violent, quoi.
Notre feuilleton dans le Beaujolais, suite et fin demain.
France Inter. Le 13-14.
C'est la France, le jeudi 13h51, la France à table, avec Marilus Ribaud du journal Sud-Ouest. Marilus, les vacances d'hiver débutent demain. Dans certaines régions, ça vous a donné envie de nous parler du RTF. Qu'est-ce que c'est que le RTF ?
Le RTF, c'est le trio gagnant des sommets. Le combo R raclette, T tartiflette, F fondu. C'est 3 plats iconiques à base de fromage. Peu importe leur région d'origine, que ce soit dans les Alpes, les Pyrénées ou le Massif central, ils ont colonisé les restaurants basés à plus de 1000 mètres d'altitude. On sait que Marc Vera n'a jamais mis de flocons dans sa liqueur de Genépi. Le célèbre chef alpin qualifie ses spécialités de terroir-caisse.
Ah oui, terroir-caisse, car la cuisine de montagne, Marilus, ne se résume pas à ces 3 recettes.
Bien sûr que non, et heureusement, un vent nouveau souffle sur les cimes. Des jeunes chefs font cet effort d'inventaire du patrimoine gustatif de la montagne, révèlent sa diversité et le modernisent. Ce pari gagnant, on le découvre dans le livre « La cuisine de montagne » paru il y a quelques semaines. Son auteur est un journaliste culinaire passionné, installé depuis 30 ans à Megève. Alexis-Olivier Cibriglio a réuni 39 chefs de moins de 39 ans et donné libre cours à leur imagination avec une seule contrainte, créer une recette en partant d'un plat traditionnel montagnard. Les découvertes sont nombreuses, de la tourte au chénopode, l'épinard sauvage cueilli dans les prairies, à l'omble chevalier pêché dans les lacs, ou encore l'agneau cuit au foin.
Mais la mémoire de cette cuisine des sommets est en danger, Marilus.
parce qu'elle a seulement reposé sur la transmission orale entre femmes dans l'intimité domestique. Jusqu'à il y a 3 générations, beaucoup ne savaient ni lire ni écrire dans ces régions à l'écart. La culture culinaire n'a donc que très peu été codifiée. Avec René Meyer, chef étoilé de La Bouite à Saint-Martin-de-Belleville et la complicité du Dauphiné libéré, Alexis-Olivier Sibriglio a lancé un appel pour créer un conservatoire de la cuisine montagnarde. Ce fut très touchant, nous dit-il, de recevoir des recettes de la part de jeunes les ayant récupérées auprès de leur grand-mère à l'EHPAD. Les 140 reçus ne sont pas toutes exploitables et une nouvelle vague de collecte sera bientôt lancée. Mais cette action de sauvetage révèle à quel point, avant l'avènement des sports d'hiver, on était pauvre dans ces vallées. La récolte de plats de viande en sauce est maigre, mais on en mangeait si peu, sauf à Noël et après le carême. En revanche, les recettes de pâtes abondent. Jérôme, nous avions raconté il y a quelque temps le nouvel engouement pour les crozets, ces petites pâtes savoyardes.
Et aujourd'hui, une autre recette avec vous, Marilus, la recette de la pella.
Avec Camille Vallée du restaurant de l'hôtel Pachmina à Val Thorens, nous allons réaliser une version moderne de cette spécialité de la région du Grand Bornan. C'est l'ancêtre de la tartiflette. Pour 8, coupez 200 g de pommes de terre amandine en petits cubes, faites revenir dans 15 ml d'huile d'olive. Une fois cuite, ajoutez 20 g de ciboulette, 20 g de noisettes concassées, un oignon ciselé, 30 g de vinaigre de cidre et 15 ml d'huile de noisette. Faites cuire à l'eau 750 g de pommes de terre binge. Mixez une fois cuit, montez le tout à l'aide d'un mixeur plongeant avec 250 g de lait et l'équivalent de crème liquide. Faites fondre 15 minutes 100 g de reblochon avec 20 cl de lait et 20 de crème. Posez 2 cuillères à soupe de cubes de pommes de terre dans une assiette. Couvrez de l'émulsion de pommes de terre et sur les contours de 3 cuillères du lait de reblochon. Décorez d'une chips de reblochon en l'ayant fait cuire une tranche fine sur une face dans une poêle. Et ne cherchez pas les lardons, à l'origine, il n'y en avait pas.
Voilà la recette de la pella que vous retrouvez. Moi, je n'ai pas eu le temps de tout noter. Vous la retrouvez sur le site de Radio France et la page du 13-14. Ça s'appelle C'est la France. Merci, Marilus Ribaud du journal Sud-Ouest. De C'est la France à C'est une chanson, suite de notre semaine olympique. Aujourd'hui, Frédéric Pommier, vous êtes avec un triple médaillé olympique, l'escrimeur Enzo Lefort.
Et c'est un titre du rappeur londonien Central Cee qu'Enzo Lefort a souhaité que l'on écoute, une chanson, Habib, sortie en 2022 sur 23, sa deuxième mixtape.
J'ai écouté pour la première fois en découvrant l'album de l'artiste et tout de suite elle m'a parlé parce qu'il y a quelque chose qui me fait voyager, qui me motive en même temps tout en mettant quelque chose de sensible et de poétique. Et du coup, je l'écoute avant mes compétitions. I don't say much, but I hear everything that is said. It don't go over my head. Success is the best revenge, no stress, I still ain't missed. We could have got round there, put it on social media, and ruined his cred. Could have grabbed a habab, put two in his head, but I let God do it instead. He done man wrong, where are they now? Nowhere to be seen. Where they at? The power's strong, where am I now? I've been in the charts for 18 weeks. My bro stay knocking man out, make man tap out, but he stay on his team like a beep. Bro, I know it's long time no see, but I'm here whenever you need. Quand vous l'écoutez avant vos compétitions, ça vous met dans un état de concentration particulier, dans un état de combativité particulier? Un état de concentration et de sérénité et de détermination. These females left me on red back then, but I look now, I bet they regret it. They used to ask what I do for a living, I said that I work in a chemist. I had no money, I weren't embarrassed, I'm doing that road in my Toyota Yaris. C-Squad late, trying to cut through traffic, rule number one, don't panic. Ils chantent qu'il faut jamais lâcher, si on résume. Oui, c'est ça, qu'il faut jamais lâcher, qu'il faut pas perdre de vue ses objectifs, ne pas forcément écouter le bruit extérieur qu'il y a autour et que quoi qu'il arrive, peu importe les échecs, il faut se remettre sur ses pieds.
Vous, ça a toujours été facile de vous remettre des échecs ou ça a été très compliqué à certains moments de votre vie?
Non, ça a été, je veux pas dire facile, mais en tout cas assez rapide, parce que c'est ça dans le sport de niveau, on peut pas forcément trop ça peut sentir sur ses échecs, parce qu'il y a toujours des échéances qui reviennent, donc il y a des échecs qui ont été parfois plus cuisants, mais le fait est que très tôt, il fallait se remettre sur pied, donc on se remet sur pied et on fonce vers la prochaine échéance. Put my life on the line to see, bro, elevate. Sometimes I feel like I'm way too generous. Step on the gas one time, accelerate. I need the same time piece as Federer's. First flight that I took was an easy jet. Now it's TXP, I'm on Emirates. Live your movie, I say it with emphasis, but the flow too effortless.
Vous faites un peu de musique, vous?
Absolument pas, non, je fais pas de musique, m'intéresse beaucoup, mais je n'en fais pas. Enfin, j'ai fait du piano pendant 7 ans quand j'étais plus jeune, mais voilà, ça s'arrêtait là.
Par contre, faites de la photo. Ça, c'est une vraie passion. Vous avez même fait plusieurs livres de photographie. Est-ce qu'il y a un point commun entre le sport et prendre de la photo?
Oui, oui, bien sûr. Dans la photographie, il s'agit de trouver le bon moment pour capturer une scène. Et dans le sport, en tout cas dans ma discipline, il y a cette notion de temporalité, d'instantané, où il faut choisir le bon moment pour attaquer son adversaire. Donc je pense qu'il y a des parallèles qui peuvent s'effectuer entre les deux disciplines. Après, c'est un rapport totalement différent, dans le sens où dans la photographie, je n'ai aucune pression. Donc ça m'aide un peu à m'affranchir de la pression que je peux ressentir dans ma vie de sportif de niveau de tous les jours.
La photo, elle a cet objectif-là pour vous? C'est vraiment un sas de décompression?
Oui, c'est ça, c'est un sas de décompression, c'est quelque chose qui assouvit aussi ma curiosité naturelle et qui me permet de me vider la tête, ouais.
Dans ce titre-là, Central C, il évoque aussi sa foi. Il parle même de Dieu. Mmh. Est-ce que vous, Dieu, il est présent dans votre vie?
Moi, non. Non, mais après, moi, la foi, je peux l'interpréter comme la confiance qu'on a en soi, la détermination qu'on peut avoir, et nos croyances et certitudes qu'on peut avoir dans certains domaines de notre vie.
Et vous, ce serait quoi, les croyances que vous avez?
La croyance que j'ai, c'est que si on est en adéquation avec soi-même et qu'on est bien dans sa peau, on peut arriver à être heureux.
Aujourd'hui, vous êtes heureux?
Aujourd'hui, je suis très heureux, oui.
Le fleurettiste Enzo Lefort, triple médaillé olympique, Khabib de Central C avec Frédéric Pommier, que l'on retrouve demain. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Jérôme Cadet.
De quoi parlez-vous aujourd'hui?
On s'en va en Himalaya pour parler des glaciers.
On vous suit volontiers, à tout de suite.